Vous vous sentez concerné par la politique, la vie associative, la vie militante, ou c'est vraiment quelque chose qui n'attire pas du tout votre attention?
Je sais pas, trop la flemme de répondre.
Contrairement à Claire, Claude Neugewander a toujours eu de l'énergie pour militer et diriger des entreprises. Dans un livre « Une vie de militance » paru aux éditions Yves-Michel Adels, il raconte son parcours de vie. De son engagement à la GEC, jeunesse étudiante chrétienne, à la création de TEN, un cabinet de consultants spécialisé dans le développement économique et l'aménagement du territoire, en passant par ses adhésions à l'UNEF, l'Union nationale des étudiants de France, à la DELS, Association pour la démocratie et l'éducation sociale et locale, à la CFDT, au PSU, puis au Parti socialiste, sans oublier ses directions d'une grande entreprise horlogère, LIP, et de la Fédération nationale d'achat des cadres. Un parcours peu ordinaire au regard des témoignages de Charlotte et Camille, interrogés dans la rue en compagnie d'Anna Lequeo, au pied d'une structure recouvrant la fontaine de la Place Royale à Nantes, pour le temps de la période d'inauguration du voyage à Nantes.
Quand on dit « je m'engage », on s'engage pourquoi ?
Ça dépend, ça peut être politique, ça peut être... Social.
Professionnel ou social, bah oui.
Oui, bah...
Quand on s'engage dans quelque chose, bah on fait ce qu'on a dit.
Ou pour une opinion.
Ma trajectoire n'a rien d'exceptionnel. Rien. C'est sûr que je suis parti d'une famille bourgeoise et j'arrive à une conception de la société qui n'est plus bourgeoise, qui est sociale, par certains aspects chrétiens et par d'autres républicains et démocrates. Mais j'étais dans la bourgeoisie, j'en suis sorti par mon entrée dans la GEC, puis par le fait que j'ai décidé d'être militant quand j'ai constaté quelle était la misère de la plus grande partie de l'humanité et qu'il fallait redresser ça. Donc je suis entré dans la militance et j'en suis jamais sorti, en même temps qu'une carrière professionnelle relativement banale.
À 17 ans, on peut s'engager pour défendre son opinion?
Oh là, c'était un sujet de... Non mais j'étais tombé sur un sujet comme ça en allemand, enfin bref.
Bah vas-y, réponds.
Qu'est-ce que vous avez répondu alors, en français?
C'est difficile. Je sais pas, franchement, je...
Vous vous sentez engagé, vous, dans votre
pas
vie
encore.
Pas encore,
non.
Pourquoi?
Parce que, pour moi, l'engagement, c'est politique, tout d'abord, et s'engager à 17 ans dans la politique, c'est un peu difficile, parce qu'on peut pas se construire une opinion tout de suite, vraiment. Même si on peut en avoir, on n'a pas tous les éléments pour. S'engager dans un parti à 17 ans, c'est pas possible, déjà. Si? Il faudra que je le fasse alors.
C'est clair que je suis entré à la GEC et que c'est la GEC qui m'a formé. Elle m'a transformé. Je dis toujours que je ne sais pas ce que j'ai apporté à la GEC, mais je sais ce que la GEC m'a apporté, car je lui suis reconnaissant d'avoir fait de moi, et fait au sens manufacturier du terme, d'avoir fait de moi un militant. Ça m'a valu une vie passionnante et, je dirais, heureuse. Je suis ravi d'avoir eu une succession d'épisodes militants, très proches les uns des autres, mais indépendants les uns des autres. J'ai été à l'UNEF, j'ai créé la DELS, après le service militaire en Algérie, je suis entré au Club Jean Moulin, l'épisode le plus intellectuel de ces militances. Ensuite, je me suis occupé de Sarcelles comme président du Conseil des résidents, essayant d'inventer un syndicalisme de l'habitat. Et puis après cela, je suis parti chez LIP. Je suis parti chez LIP, qui est certainement l'épisode le plus engagé de ma vie militante, mais professionnellement le plus difficile, parce que c'était vraiment un pari terrible, mais avec des hommes d'une telle qualité que je n'ai jamais regretté d'avoir pris le risque, que j'assume encore, d'avoir dirigé LIP.
Et dans votre entourage, c'est plutôt une famille de militants engagés?
Pas du tout. Non. Pas d'engagement politique, plutôt ouvert et pas de restrictions à un seul parti.
Oui.
Pour vous, l'engagement peut se résumer à ça? Enfin, vous l'entendez comme des fois une manière de se fermer un petit peu?
Ça peut, politiquement, oui. Après, au niveau des associations, sûrement pas, mais politiquement, oui, l'engagement.
Donc l'engagement restreint son champ de pensée, là.
À mon
avis, oui, ouais.
Non, mais c'est très intéressant.
C'est mon grand-père qui était un Auvergnat, pharmacien, fils de pharmacien, 10 générations de pharmaciens dans la même pharmacie à Rodez, sauf que son père l'avait eu jeune et que quand il a eu son diplôme de pharmacie à Montpellier, il n'a pas pu prendre la pharmacie de famille et donc il est monté à Paris. Et j'ai d'autres cousins de l'Aveyron, les Triadoux, les Capoulades, qui sont montés aussi à Paris. Et on n'a jamais été malheureux de cela. Cela étant, mon grand-père, quand il venait à table, et c'était un homme d'une drôlerie irrésistible, avec une grosse voix qui était esquintée par l'hypérite à Verdun, quand il venait à table, il sortait de sa poche une gousse d'ail qu'il mettait à droite de son assiette et son couteau de l'aïeul qu'il mettait à gauche de l'assiette. C'était comme ça tous les jours. Et de temps en temps, avec ma grand-mère, et ils parlaient entre eux en patois, s'ils n'avaient pas envie qu'on comprenne ce qu'ils disaient.
Est-ce qu'il y a des choses qui nous indignent ?
Oui, par exemple,
l'extrémisme.
Oui, bah oui, il y a forcément des choses qui...
Sans vous pousser non plus à vous engager contre.
À nous révolter, non.
Voilà.
Parce que vous êtes peureux, peureuse.
Ah non, pas forcément, mais moi j'ai l'impression que je suis pas assez grande.
Ouais, à notre niveau, ouais, on peut pas trop intervenir, on a l'impression qu'on n'est pas trop...
Vous êtes quasiment majeur.
Quasiment, bah oui, mais pas encore.
Oui, mais dans combien de mois?
Dans 2 mois.
Vous avez le droit de vote dans 2 mois?
Ouais. Mais j'ai l'impression que je suis pas assez dedans encore.
Vous pensez que c'est une question de maturité?
Bah, plutôt d'intérêt. Enfin, ouais. Mais oui, mais j'ai commencé cette année à m'intéresser à la politique un petit peu, mais je suis pas non plus... je connais pas tout.
Je connais jamais tout. Et qu'est-ce qui vous a fait vous y intéresser cette année?
Je sais pas du tout. Genre, j'ai regardé les trucs et j'ai trouvé ça intéressant.
Au niveau des élections présidentielles?
Oui, les élections. En plus, il y a le cours d'histoire et tout qui va avec, donc vu que j'adorais en histoire étudier ça, je suis rentrée dedans.
Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce livre? C'est un témoignage, un parcours de vie pour dire c'est encore possible aujourd'hui?
Non, je vais vous dire. Quand je suis entré à l'UNEF, j'y suis entré parce que la GEC m'y a poussé. La GEC, quand j'étais en préparation, je préparais les grandes écoles, m'a dit il faut que l'UNEF entre dans la réflexion politique, dans la vie démocratique de ce pays. Il faut donc qu'on prenne la place du folklore qui aujourd'hui dirige l'UNEF. Et donc pendant 2 ans, pendant que je préparais Centrale, j'ai collecté des adhésions à l'association. Au bout de 2 ans, j'avais 2000 adhésions. Ça correspondait à une association avec 3 voix et ça a aidé à faire basculer l'UNEF en juillet 1956, au moment même où je passais l'oral, ce qui fait que j'ai perdu 80 places entre l'écrit et l'oral, ce qui n'a pas d'ailleurs une grande importance. Et donc, je suis entré à l'UNEF comme cela, en réfléchissant, en recréant ma propre scope après l'IP, après avoir été révoqué de l'IP et chassé honteusement du patronat. J'ai découvert l'économie sociale, je l'ai vraiment découverte. À Athènes, on a monté plusieurs scopes, on a travaillé avec la mutualité française, on s'est vraiment intégré dans l'ensemble de l'économie sociale. Et depuis, je le défends.
Donc c'est le fait d'être chassé?
Un peu, oui, un peu, je reconnais. Je reconnais que je n'aurais peut-être pas connu cela si je n'avais pas été dans l'obligation de le pratiquer, parce que je ne pouvais pas espérer un job où que ce soit. Je n'avais pas d'indemnité de chômage, puisque j'étais mandataire social comme PDG. Donc il fallait que je me démerde pour gagner ma vie.
Si on s'engage dans quelque chose, il faut qu'on connaisse...
Avoir un minimum de compétences pour s'engager.
Mais c'est pas après, c'est-à-dire qu'instinctivement on a envie de défendre une cause et on rejoint un groupe et c'est le groupe qui forme et qui donne les connaissances.
Pour pouvoir comparer avant les différentes causes avant de s'intégrer à une précision.
Vous en pensez quoi?
Une horreur.
En plus, moi je pense qu'il y en a qui peuvent se tuer. Elle est tout là-haut. Non, je sais pas. Bah, après, ça peut être amusant pour les petits, mais. Enfin, moi j'irais pas faire ça, quoi.
Donc, on est devant une structure proposée dans le cadre de Voyage à Nantes. Je dis ça parce que, comme c'est de la radio. Hein. Mmh. Donc, cette structure qui couvre la fontaine de la place royale, c'est le Mont Royal. Je trouvais que c'est subversif le fait de masquer un élément du patrimoine nantais.
C'est dommage. Surtout dans une période comme ça où on a plein de touristes, je trouve ça dommage.
Bah non, enfin justement, il y a pas trop. Enfin, les gens en été, ils partent plutôt ailleurs. Ils partent de Nantes, quoi, non?
Bah, les étrangers, ils viennent de Nantes.
Oui, pas forcément, c'est pas la ville la plus.
Bah, merci pour ce petit moment.
Merci.
Bon après-midi.
Bah, vous aussi.
Passez un bon été, au revoir.
Merci.
Au revoir.
Ne m'attends pas pour déjeuner demain matin. J'ai pris un train, puis un avion, puis une auto. Je t'avais dit qu'un jour j'irais me perdre plus loin. Voilà c'est fait, je suis parti sans dire un mot. Je suis déjà loin. Ne m'en veux pas.
En novembre dernier, en compagnie de Nadav Lapide, le réalisateur de Policeman, futur prix du public au Festival des Trois Continents, nous avons effectué une marche au cours de laquelle nous avons rencontré dans un camp des militants militantes indignés et dans un café culture, Samuel, membre du groupe 3 minutes sur mer.
Non, là tout de suite, j'ai besoin de temps pour fabriquer mon atelier, vous m'excusez.
Vous habitez ici, enfin vous avez une tente ici.
Là, ici j'ai mon atelier.
C'est votre atelier.
Et si vous voulez venir m'aider à l'atelier, bienvenue.
Ça fait 4 jours qu'on est là, 5e. Du coup, on s'installe. Mais il y a des gens qui arrivent de partout. Parce que Nantes va devenir la capitale du Grand Ouest, du mouvement des indignés. Donc moi, je suis de Rennes, par exemple. Il y a des amis de Vannes, de Brest. Et demain, il y aura encore plus de monde. Et on essaie de construire une structure pour accueillir tous ces indignés qui vont venir nous rejoindre.
On a eu exactement la même chose là, à Tel Aviv, à Israël. On a eu une vague énorme des tentes comme ça, des délogés.
Vous pensez que le monde va bouger un peu comme ça, en faisant ça? Est-ce que le monde va bouger? Parce que la bourse, elle fonce complètement. Hein. L'euro, il ne vaut plus qu'à 1,33€. Hein.
On va droit dans le mur avec toutes les réformes qui ont été votées.
Ils ont supprimé la 4e jour de congé de maladie, là, de carence, ils l'ont supprimé. Il faut qu'ils trouvent 200 millions quelque part.
Il y en a beaucoup qui ont envie de gagner du fric et qui font des métiers où on gagne du fric. Je ne suis pas d'accord avec cette conception. Hein. Quand j'étais militant à la GEC, réfléchissant sur la société, j'avais dit, un, je veux être militant toute ma vie. Deux, je ne gagnerai jamais plus de 10 fois le SMIC. Vous allez me dire, pour beaucoup de gens, 10 fois le SMIC, c'était énorme. J'étais un centralien, j'aurais pu gagner beaucoup plus que ça, mais moi j'avais mis là une limite absolue. Et quand je dirigeais la coopérative de conseil TEN, qui travaillait pour les collectivités locales, ce que je fais encore aujourd'hui, je gagnais 3 fois le salaire de la petite secrétaire qui venait d'entrer et qui était actionnaire comme nous de la coopérative.
Oui, c'est l'esprit des scopes.
C'est fantastique. Il faut le développer pour montrer qu'il y a d'autres manières de vivre sa vie et de faire des choses passionnantes tout en vivant normalement ou à peu près que de gagner, d'amasser des centaines de milliers d'euros, voire des millions d'euros par an, ce dont je me demande à quoi ils servent et ce qu'ils en font.
Votre musique a une implication sociale ou politique ou pas du tout?
Personnellement, je pense qu'à partir du moment où on fait le choix de faire de la musique à l'heure actuelle, dans notre époque, on est forcément sensible à ce genre de sujet puisqu'on est forcément précaire. Donc on est forcément touché socialement par tous ces mouvements-là. Donc oui, moi, ça, en tout cas, à titre personnel, ça me touche, ça nous touche, on en parle pas mal. Après, on ne fait pas de la chanson contestataire à l'ancienne. De toute façon, je pense que la chanson contestataire à l'ancienne est... Bah justement, elle est ancienne et il faut inventer d'autres choses, d'autres façons de se révolter. C'est un sujet qui me touche et c'est des choses que je pense qu'on a déjà un peu abordé dans certaines chansons et qui va revenir, c'est sûr. Ouais.
Donc c'est quoi pour vous cette nouvelle façon de se protester qui n'est pas comme les chansons contestataires du passé? Parce que vous avez dit qu'il faut inventer quelque chose de nouveau.
C'est créer quelque chose de nouveau, créer des nouvelles relations entre les gens, des nouvelles façons de communiquer. Excusez-moi, j'ai un téléphone qui sonne. C'est plein de choses à redécouvrir, parce qu'il y a des choses aussi qui ont déjà existé, notamment, je sais pas, moi je pense au lien communautaire qui est lié les gens avant, qu'on a un peu perdu, le lien social, c'est un truc voilà, qu'on a un peu...
Ce sont des choses qui peuvent être liées aussi à la musique, par exemple, en tant que musicien.
La musique, c'est quelque chose qui peut faire du lien entre les gens, ça c'est sûr.
Vous dites en fait que même l'idée du lien entre des gens, c'est quelque chose qui n'est plus du tout évidente et qui doit être repensé ou qui a un sens politique. L'idée que des gens peuvent être liés...
L'informatique maintenant, le lien entre les personnes...
Oui, mais l'informatique, c'est un lien virtuel, c'est le vrai lien dans une salle de concert. C'est quand même plus riche de rencontrer les gens en vrai. Bon, après, j'ai pas envie non plus de faire le discours « Oh là là, Internet, ce n'est qu'un outil, ça tout dépend de la façon dont on s'en sert, et ça peut être très très riche. Il faut vraiment s'en servir pour faire des choses super aussi. »
Bon lien avec les spectateurs et le public ce soir.
On est dans une société où tout change désormais très très vite. Depuis les années 70, les innovations technologiques se succèdent, alors qu'au début du siècle, il fallait 50 ans pour qu'une innovation technologique se généralise. Aujourd'hui, ça se généralise en 3-4 ans. Et donc, les gens sont confrontés, sans toujours s'en rendre compte, à une succession d'innovations qui bouleversent leur vie. Regardez le téléphone portable, c'est un changement fondamental, aussi important que l'a été l'invention de la voiture individuelle qui donnait la liberté d'échapper à son territoire natal. Sauf que la voiture a mis, je ne sais pas combien d'années, à se mettre en place, mais de l'ordre de 50 ou 60 ans pour se généraliser, alors que le téléphone mobile, il a mis 6 ans. 6 ans. Donc ça fait des chocs techniques qui bouleversent la vie des gens et qui font qu'ils s'échappent à la société pour se concentrer sur la gestion de ces innovations. Ceci tape sur les structures et tape sur les hommes. En même temps, on assiste depuis 30 ans à l'arrivée, à l'invasion du libéralisme ultra, qui est un drame pour la planète. Un tout petit nombre de gens, je dirais un pour mille, ont une puissance appuyée sur l'argent, le pouvoir et, disons-le, la mafia. Ils ont à leur service environ 1% des gens qui sont des cadres qu'ils surpayent, ce que l'on voit à plusieurs centaines de milliers de dollars, qui sont leurs gardes rapprochés et qu'ils surpayent pour qu'ils restent leurs gardes rapprochés et qu'ils ne se posent pas de problème. Tout ceci perturbe fantastiquement la planète, et les pouvoirs publics n'ont pas de pouvoir pour gérer ça, pour le réglementer, parce qu'il leur faut trop de temps, alors que les autres, avec les ordinateurs, tous les jours, échangent 4000 milliards de dollars, vous entendez, 4000 milliards de dollars, avec des ordinateurs qui font 100 échanges par seconde. On est dans un autre monde. Contre ça, les gens ne bougent pas aujourd'hui. Et ils s'aperçoivent seulement, avec la crise de 2007, que ça risque de les ruiner, de généraliser le chômage, de généraliser la précarité. Il faut donc qu'ils se réunissent, qu'ils se réveillent, qu'ils agissent, qu'ils entrent en résistance.
Gilles Perret a réalisé un documentaire sur Walter Bassan, notre prochain invité, qui a rejoint durant la Seconde Guerre mondiale, à 17 ans, un groupe de résistants. Aujourd'hui, il parcourt les écoles pour témoigner et milite toujours contre toute forme d'oppression.
Vous savez, je vais dans les collèges, je vais dans les lycées, je fais des témoignages. Bon, il faut dire que pendant 10 ans, j'ai dirigé le comité de Haute-Savoie du concours national de la résistance et de la déportation. C'est-à-dire qu'on a mis en place un certain nombre d'innovations qui ont rendu ce concours agréable et puis intéressant pour la plupart des élèves. Parce que ce concours, il est volontaire, il ne s'impose pas aux élèves. Je vous dis ça parce que quand mon équipe a pris la direction de ce concours, il y avait 13 établissements en Haute-Savoie qui participaient au concours. Et en 2005, il y en avait 50. Il y avait 400 élèves en gros qui participaient. En 2005, il y en avait 5000 qui participaient au débat, à cette histoire de la résistance. Et je peux vous dire que dans les témoignages, dans les débats qu'il y a avec les élèves, hein, des élèves de 15, 16 ans, de 18, 20, je retrouve chez certains d'entre eux ce que j'étais moi à leur âge. Bon, je crois qu'on peut être content, on peut avoir confiance envers les jeunes générations.
Vous étiez comment ?
J'étais élevé dans un milieu antifasciste. Alors, j'ai l'habitude de dire, parce que c'est vrai, quand je suis rentré dans la résistance, je suis plus rentré par haine de l'occupant et de la collaboration que par conscience politique ou conscience civique. Parce qu'à 16 ans, je ne crois pas que ça soit bien développé. Mais n'empêche que ça a peut-être facilité quand même cet esprit que mes parents m'ont inculqué. Mais c'est plus la haine. Et je peux vous assurer qu'après, elle a mûri cette conscience politique et cette conscience civique. C'est ce que je fais depuis que je suis revenu, quoi. Mais il y a aussi qu'on était 25 jeunes qui avions entre 15 et 20 ans. À la suite d'une trahison, on a tous été arrêtés. On a tous été déportés. Et finalement, il y en a 15 qui sont parvenus. Alors, ne serait-ce que pour leur mémoire, ces gamins-là, je me dois de défendre les valeurs pour lesquelles ils se sont battus, pour lesquelles ils sont morts, même s'ils n'en avaient pas une entière conscience, si vous voulez.
Merci à Claude Neuschwander, auteur d'Une vie de militance parue aux éditions Yves-Michel Adels, à Samuel du groupe 3 minutes sur mer, à Nadav Lapide, réalisateur de Policeman, film présenté à Nantes au Festival des Trois Continents, à Walter Bassan, figure centrale de Walter, Retour en résistance, un film documentaire de Gilles Perret. Merci à Anna Lequeo, Claire, Charlotte, Camille, aux militants militantes du camp des Indignés, pour leur libre participation à cette réflexion sur l'engagement.
La seule chose qui me rend un peu triste quand je pense à mon âge, j'ai 78 ans dans deux jours, ce qui est quand même un bon âge, mais je continue à travailler, je me sens vigoureux et j'ai envie de travailler, je recommencerai immédiatement et la même chose. Parce que vous savez, quand vous militez, et que vous militez avec des copains, des vrais copains, pas des copains qui font carrière, des copains qui servent. Alors l'amitié, alors la rigolade, ça vous fait la plus belle des vies. C'est celle que je vous souhaite.
J'aimerais être aussi lumineux que certains mots, leur donner vie, qu'ils soient réels, jamais de trop. Parfois j'y crois, mais je rince souvent le tableau. Parfois j'aimerais juste garder la tête hors de l'eau, être déjà loin. M'en veux pas si je vais bien, ça ne te regarde pas, ça ne te regarde pas. J'ai jamais su tenir en place, tenir les rênes, tenir debout droit dans mes bottes où qu'elles me mènent. Arrête, c'est moi qui ai peur du lendemain. Alors je pars.